Génial. Qu'est-ce que c'est bien de passer du temps dans la présence de Dieu, d'élever son nom. C'est super de vous revoir, d'être nouveau ensemble. Aujourd'hui, on se voit dans les maisons, les autres week-ends ou semaines, et puis de se retrouver tous ensemble. Il y a quelque chose qui se passe quand on élève le Seigneur tous ensemble. Et ce matin, on va vraiment aller dans la suite un peu du message d'il y a 15 jours, mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ces séries où si vous avez loupé le début, vous allez rater la suite. Donc, il n'y a pas de souci, mais ce message de Diane où il était question de regarder au bon endroit, de regarder comme par un télescope où c'est que Dieu veut nous mener, le terrain spirituel que Dieu nous donne, que Dieu nous a promis, et puis les promesses de Dieu, puis d'avoir un regard aussi transformé par la foi en voyant les choses comme lui veut les donner avec sa perspective. Et mon message ce matin a comme titre « Un élan de foi ». Et va parler justement de ce voyage aussi qui consiste à aller dans cet endroit, à s'emparer cet endroit, de ces promesses, de ce pays qu'on voit au travers de ce télescope, mais comment y aller vraiment. Et pour ceux qui nous suivent aussi sur Instagram, vous avez bien compris de quel élan il s'agissait, d'un élan de foi, vraiment celui qui consiste à aller de l'avant et pas juste cet élan-là. Et ce message, il touche deux valeurs, entre autres, et plein de choses, mais qui nous tiennent aussi à cœur au niveau de l'Église Passion. C'est tant l'audace, on aime être audacieux, on ose se tromper, mais on veut aller de l'avant dans la foi. Et puis aussi la positivité, de regarder selon le regard de Dieu. Et c'était entre autres le message d'il y a 15 jours, que vous pouvez d'ailleurs écouter. Mais de regarder aux choses, justement, de porter notre regard sur ce qui est juste, sur ce qui est honorant, sur ce qui nous pousse de l'avant, sur les promesses de Dieu, et pas l'inverse, où on regarde juste les obstacles, puis ce qui n'est pas encore parfait. C'est comme quand on voit un nouveau-né, tu t'émerveilles devant sa bouille, ses petites mains qui bougent, ses petits pieds, et en fait, tu ne vas pas regarder juste au bout d'os qui lui manque sur la tête, la fontanelle, hein, et puis ses dents qui manquent, puis qui ne sont pas là, non. Tu vas voir le potentiel de qui il va devenir, puis tu l'aimes comme il est maintenant, tout simplement, même s'il y a des choses qui manquent encore, sans trop te poser de questions. Là, ça fait 2 secondes qu'il est sorti, puis il loue déjà le Seigneur. Le bébé, tu l'aimes, alors qu'il lui manque environ 1m30 de taille. 1m50, si c'est un futur basketteur, lui qui fait déjà 50 cm. Et je trouve que c'est vraiment une magnifique image de voir comment Dieu désire qu'on puisse voir. Voir l'autre dans son imperfection, mais déjà aussi avec son potentiel, puis l'aimer comme il est maintenant. Mais surtout aussi qu'on puisse voir ainsi notre propre vie, notre appel, puis croire au potentiel, à ce que Dieu promet pour nos vies, même s'il manque encore des choses, même si c'est incomplet, mais nous aimer maintenant et nous aimer dans le moment présent que Dieu nous donne de vivre. Puis pas juste de vivre dans l'attente d'un futur meilleur, mais d'aimer aussi de ce qu'on vit maintenant. Et je crois que c'est vraiment tant un regard de reconnaissance que de foi dans ce que Dieu va faire plus tard. Ce regard de reconnaissance que de foi aussi, pour aller plus loin, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit ce matin. Et quand on regarde un nouveau-né, on ne se pose pas trop la question, est-ce qu'un jour il va réussir à marcher? On y croit, on sait que c'est normal. Pourquoi on y croit? Pourquoi on sait qu'un petit va marcher? Parce qu'on a déjà vu ça X fois avec les gens qui nous entourent, nos frères et sœurs, d'autres gens, nos enfants peut-être, je ne sais pas. On a vu d'autres bébés mesurer environ 50 cm, puis grandir. « Oh, mais qu'est-ce que t'as grandi ?» etc. Et si vous avez une bonne mémoire, peut-être que vous allez même vous souvenir quand vous étiez petit et que vous avez grandi. Et puis, si tu ne te souviens pas, va juste visiter ta cour d'école ou ta place de jeu, puis tu verras comme elles ont rapetissé. Non, elles sont toujours la même grandeur, c'est juste toi qui as grandi. Mais ça fait vraiment bizarre quand on retourne à des endroits quand on était enfant, qu'est-ce que ça paraît petit, alors que ça paraissait énorme à l'époque. C'est juste nous qui avons triplé de hauteur, enfin j'espère que de hauteur, mais de taille. Mais imaginez monsieur Adam et madame Ève, lorsqu'ils ont eu leur premier-né, le tout premier enfant. Ils n'ont jamais vu de bébé encore naître, c'est le premier. Ils ont dû se dire, bah, tiens celui-là il est un peu petit. « Seigneur, tu nous as demandé de se multiplier, mais il n'est pas grand. Hein. Tu nous as mandaté, mais il faut que quelque chose qui se passe. » Là, c'est un modèle réduit, quoi. C'est un prototype, ou je ne sais pas. C'est un modèle un peu incomplet. Il manquait de la hauteur, il manquait des muscles. Il ne fonctionne pas correctement. Il ne marche pas vraiment, dans tous les sens du terme. Ce premier essai de multiplication, c'était un peu K1K. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé K1. S'ils avaient eu des jumeaux, ben, c'est le prénom du deuxième aussi. Hein. Mais voilà, ils ont eu K1 qui a grandi, et puis le deuxième, il a eu chaud, Abel. Mais à part ça, ils ont quand même dû se poser la question, en voyant voilà, ce petit, ils n'ont jamais vu un petit qui naissait comme ça. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais justement, on voit que, en général, le positif, le potentiel, on est attendri. Mais un bébé, c'est un peu difforme, sa tête, elle fait un quart de son corps. Alors que pour nous, c'est un huitième, en principe. Sauf quand on a la grosse tête, mais c'est, voilà. Ensuite, les membres se développent, les membres prennent de la force. Et puis, c'est un peu pareil pour l'Église aussi. La Bible parle de l'Église comme un corps qui se développe, qui grandit. Bref, devant un nouveau-né, on a tous une foi qui est là, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est juste normale. Pourquoi ? Pourquoi ça nous paraît normal qu'il va grandir, qu'il va tripler de taille ? Parce qu'on a déjà vu tellement de fois un bébé grandir, que ça devient pour nous tellement naturel. Pourtant, c'est surnaturel. La première fois qu'on voit un petit haricot de rien du tout dans le ventre d'une maman, puis qui devient un être normal formé, ce petit être de 50 cm qui va plutôt quadrupler de grandeur dans les quelques années qui suivent, c'est vraiment un miracle. C'est complètement fou, c'est surnaturel, mais on a l'habitude de ça. C'est surnaturel, mais pour nous, c'est naturel. Pourquoi ? Pourquoi ça devient pour nous naturel ? Parce qu'à force de voir ce surnaturel se produire, c'est normal, c'est bien, hein, et on le trouve naturel. C'est comme une plante, c'est une graine. C'est miraculeux quand vous mettez une petite graine de rien du tout dans la terre, puis que ça devient une plante comme ça, puis après même des fruits, ça devient un arbre. Mais on a tellement vu ça, on est né avec cette notion que c'est, pour nous c'est un principe, c'est normal. Et je crois qu'à force de voir des choses surnaturelles se produire, à un moment donné on va trouver ça naturel, et c'est normal. Ça introduit un peu un de mes premiers points que je voulais dire ce matin, c'est qu'un des moyens de faire grandir sa foi, justement de pouvoir passer du point A comme aujourd'hui, ou bien peut-être on en est au point D, c'est-à-dire comme défi, découragement, peut-être désert, pour aller au point P, au point peut-être promesse, au pays promis, pour passer de notre aujourd'hui à ce à quoi on aspire, pour passer de là où on est à ce qu'on voit dans le télescope des promesses que Dieu nous donne, toujours avec ce principe que le surnaturel, à force de le voir, il va devenir normal, et c'est bien pour nous. Je crois qu'une des clés pour faire grandir notre foi, c'est de se souvenir et de se nourrir des victoires passées. C'est de se souvenir et de se nourrir des victoires passées. Et c'est vraiment un principe de Dieu qui nous permet de grandir dans notre foi. Combien de fois dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, au travers de Moïse, il rappelle au peuple ce qui s'est passé avant, comme pour attiser la foi, pour leur faire croire de nouveau, pour leur faire grandir la foi qu'ils ont, pour le prochain défi qui s'annonce. Jetons un petit coup d'œil dans le rétro, justement. D'abord, il y a les plaies d'Égypte, où c'est chaque fois des choses bien sûr qui sont surnaturelles qui se passent. Puis ensuite, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent dans une voie sans issue, c'est la mer Rouge qui est infranchissable. Et là, le miracle se produit, c'est que la mer, elle se sépare et ils peuvent traverser. Puis quand enfin ils sont de l'autre côté, à force de marcher, ben, ça donne soif. Et puis ils arrivent à un point d'eau, et puis ils comblent de malchance, l'eau est amère, on ne peut pas la boire, elle est imbuvable. Et là, Dieu fait un miracle, il dit à Moïse de jeter un bout de bois dans l'eau, et puis que l'eau va devenir douce et potable, c'est ce qui se passe. Et à force de marcher, de boire, ben, ils ont faim aussi. Et Dieu leur dit qu'il va pleuvoir comme chaque jour du pain, c'est la manne qui tous les jours va venir, c'est un miracle, mais c'est un miracle au quotidien qui se passe pour eux tous les jours. Ce n'est pas un miracle unique, mais chaque jour ce miracle se produit de cette manne qui est là. Après vient la belle saison, qu'on attend aussi ici, la saison des grillades, barbecue. Le peuple, il languit aussi de se faire un petit grill, puis il râle, puis il murmure, puis Dieu les écoute, puis il envoie même de la viande avec des cailles qui arrivent en nombre. Et puis c'est un miracle aussi, toutes ces cailles qui tout à coup débarquent pour qu'il y en ait plus que pour tout le monde. Mais voilà, quand on fait une grillade, poulet rôti, ça donne soif. Hein. Mais il n'y a plus d'eau. Et Dieu va faire un miracle vers le rocher d'Horeb où tout à coup l'eau coule. Alors j'ai un petit peu condensé ça, excusez-moi, j'en conviens, mais ça démontre un peu les miracles à la chaîne qui se sont passés pour ce peuple dans le désert. Puis après, il y a des ennuis qui viennent, pas juste des besoins primaires, mais carrément des ennemis qui sont là. Notamment une fois, c'est le peuple des Amalécites, et le peuple s'engage pour les combattre. Et puis Moïse, il va sur la montagne, il prie, puis tant qu'il a les mains en haut, en priant pour l'armée dans la vallée, ben, le peuple gagne. Puis dès qu'il est un peu fatigué, puis qu'il baisse les bras, ils perdent. Alors Josué, un autre, il leur lève les bras. Et Moïse, tant qu'il a les bras en haut, il gagne. C'est de nouveau un surnaturel comme truc. C'est pas naturel, c'est fou. Et ensuite, il y a toute cette période où Dieu parle, leur donne des instructions, ils font un temple mobile, le tabernacle, etc. Mais ensuite, vient le temps où il faut s'emparer aussi du pays promis. Et là, Moïse envoie 12 espions, puis le rapport est contrasté. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, c'est tout un message, mais ce n'est pas de ça que je vais parler longtemps. Mais 10 espions sur les 12, ils sont réalistes, mais négatifs. Et ils mettent le focus sur les défis qu'il y a dans ce pays, des géants, des villes fortifiées, etc. Et il y en a seulement deux, Josué et Caleb, qui sont optimistes, autrement dit, qui sont remplis de foi. Et ils voient le potentiel, ils voient les bonnes choses, ils voient les richesses de ce pays. Pourtant, les 12 espions, ils ont vu toutes les victoires passer déjà. Ils ont vu des miracles fous dont on a parlé. Ils ont vu ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte, ces plaies. Ils ont vu ce Dieu puissant se manifester bien plus que nous tous. Donc, ce n'était pas un petit cours de catéchisme accéléré que je vous ai fait avant avec toutes ces... Mais c'est pour montrer le bagage de miracles qu'ils avaient vu aussi, leur vécu. Et pourtant, lors du prochain défi, s'emparer du pays, tout à coup, ils ne se sont plus trop souvenus de la puissance de Dieu. Tout à coup, les géants, ça devient pas possible de les combattre, ou ces villes, on ne sait pas comment on va faire pour les attaquer. Et là, on voit qu'on a vite fait d'oublier comment Dieu a agi avant. Et la conséquence, là, elle est sans appel. Dans Nombre 14, il est mis, le Seigneur dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire du Seigneur remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire, et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, ils m'ont provoqué déjà 10 fois, et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » Caleb et aussi Josué, il y a d'autres textes juste après qui parlent aussi de Josué, les deux, justement, entreront dans ce pays, et Josué sera même le leader. Et petite parenthèse, petite dans le temps, mais pas forcément dans... Elle est énorme de sens, elle est même trash, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans Nombre 14, si on poursuit, les hommes que Moïse a envoyés sur ces 12, non seulement les 10, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, mais ils sont morts. Il y a eu un fléau qui est tombé sur eux. Ils sont morts, frappés d'un fléau. Et seuls Josué et Caleb furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Donc non seulement leur négativisme, leur regard humain, certes réaliste, mais négatif, ou plus clairement leur manque de foi, ne va pas les faire rentrer dans le pays promis, mais en plus ils meurent. Et c'est un récit véridique, historique. Et spirituellement, je crois que c'est des fois aussi voilà, une image, une leçon. Non seulement le manque de foi... Peut-être ça ne nous fait pas vraiment rentrer dans le pays promis ou dans nos promesses, mais je pense que ça peut peut-être même des fois faire mourir des promesses qui sont là, qu'il y a en nous. Heureusement, la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de son appel et il est toujours temps de revenir à lui pour qu'il réactive toutes ces bonnes choses qu'il a pour ta vie et pour ma vie, avec un retour à Dieu. Mais c'est quand même super trash quand on lit ce passage dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de vie, de mort, mais plutôt de pays promis, à comprendre dans le sens de promesses que Dieu nous a données sur nous-mêmes. Et on ne veut pas que ces promesses, elles meurent et qu'elles s'éteignent ou bien qu'elles sèchent, quoi. Simplement sur le côté. Et ce qui a permis à Josué et Caleb de passer outre ces défis, de voir outre ces montagnes, les géants, ces villes, c'est comme on l'a vu, c'est qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Animés d'un autre esprit. Et là, on en revient à ce que Diane disait il y a 15 jours, que humainement, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. Dans Éphésiens 4, je relis le passage qu'elle avait dit, juste en résumé, où il est dit « vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, et revêtez-vous de la nature nouvelle créée à la ressemblance de Dieu. » Animé d'un autre esprit. Et là, on peut voir les choses spirituellement. Et aujourd'hui, le but de ce message, ce n'est pas de se dire « voilà ce qui arrive quand on a la foi, voilà ce qui arrive quand on n'a pas la foi ». Ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de dire ce matin, mais c'est plutôt « comment faire pour avoir cet autre esprit ?» comme Josué et Caleb. Comment faire pour avoir un esprit de foi ? Comment faire pour avoir un esprit d'audace ? Comment faire pour avoir un esprit positif ? Comment faire pour être confiant ? Comment faire pour avoir un esprit divin en nous qui croit que tout est possible ? Au-delà de tout ce qu'on voit, ce qu'on sent. Comment faire ? Et une des pistes, et il y en a d'autres, c'est juste ce matin, je vais donner une ou deux pistes, il y en a d'autres, comme par exemple se nourrir de la parole de Dieu, passer plus de temps dans la prière, l'intimité avec Dieu, mais une des pistes, justement, c'est de regarder aux victoires passées. Et lorsqu'il s'agit de s'emparer du pays de Canaan, qui semblait imprenable face à ses habitants, ses villes, ses géants, voilà ce que Dieu dit. Dans Deutéronome 7, 5, il dit « Vous allez vous emparer du pays » en vous souvenant de la promesse de l'Alliance. Et de se souvenir de la promesse, c'est déjà une chose, la première chose, mais aussi de se souvenir que c'est lui qui a délivré, qui les a délivrés du peuple d'Égypte, qui a agi miraculeusement, la liste que je vous ai faite tout à l'heure, un peu en condensé, et il va pouvoir de nouveau agir pour ce défi. Et dans Deutéronome 7-8, il est dit, mais c'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante, qu'il vous a délivré de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Et là, le verset 18, qui est intéressant, comme les autres aussi, mais qui est parlant, il est dit, n'aie pas peur de ces peuples plus puissants que toi. Souviens-toi de ce que le Seigneur ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force et de sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que le Seigneur ton Dieu agira envers tous les peuples que tu redoutes. Et ensuite, il continue en disant, souviens-toi que je t'ai accompagné pendant ces 40 ans dans le désert. On le voit, pendant ces 40 ans, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. 40 ans, le même habit, quoi. Là, Zalando, ils n'ont pas fait des affaires. Hein. Et ton pied ne s'est pas enflé. Ils n'ont pas eu de soucis, pas de cloques, ils n'ont rien eu. Leur pied ne s'est pas enflé. Ça fait 40 ans de marche dans le désert. Reconnais dans ton cœur que le Seigneur ton Dieu t'enseigne comme un homme enseigne son enfant. Et il leur a dit, vous avez toujours eu à manger, vous avez toujours eu les vêtements qui n'étaient pas usés. Et voilà le message de Dieu au peuple, avant de s'emparer du pays, devant ces grands défis, il leur dit, souvenez-vous des miracles et des victoires passées. Et ce que Dieu dit là, c'est un peu le message, la deuxième chance, parce qu'à cause de la peur, du négativisme et du murmure, 40 ans plus tôt, ils étaient passés à côté. Toute cette génération est passée à côté. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis à cause d'un manque de foi de 10 espions qui ont influencé ensuite tout le peuple. Et là, 40 ans plus tard, il y a une nouvelle chance. Mais c'est un peu le même défi. Il y a une nouvelle chance. Et le message de Dieu pour eux, ce n'est pas « ayez plus de foi que la dernière fois hein, » ou « faites pas la même erreur hein, que vos ancêtres, vos parents il y a 40 ans ». Non, ce n'est pas ça qu'il leur dit. Il pourrait leur dire hein, « vous êtes trompés une fois, pas deux. Cette fois, vous y allez. » Mais il leur dit, on vient de le voir, il leur dit « souvenez-vous de tout ce que j'ai fait pour vous ». C'est ça qu'il leur dit. « Souvenez-vous de tout ce que j'ai fait pour vous ». Et c'est ce qui va leur permettre de passer au prochain level, d'entrer enfin dans les promesses de Dieu. Et je crois que ce matin, c'est aussi le message que Dieu a pour nous. Souvenez-vous déjà de tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de passer à un niveau supérieur, d'entrer dans les promesses qui ne sont pas encore réalisées, de s'emparer de ce pays que Dieu nous promet, de ce qui vibre dans ton cœur, que Dieu t'a peut-être fait voir justement par ce télescope, ce qui est peut-être pour demain ou après-demain ou un peu plus loin. Se souvenir de ces victoires passées, c'est ça qui va fortifier notre foi. C'est ça. Et ce matin, je ne suis pas en train de dire « ayons plus de foi », mais la piste, c'est « souvenons-nous de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies ». Et peut-être qu'on se fait du souci aujourd'hui pour X choses, peut-être qu'on a différents défis, on a pu en parler aussi tout à l'heure, où Dieu veut ouvrir des portes vraiment. Mais les 10 espions, ils avaient vu toute la panoplie d'interventions que Dieu avait déjà fait pour les faire sortir d'Égypte. Mais ils les ont comme oubliés. Et comment ne pas commettre, nous, la même erreur ? Dieu leur dit, souvenez-vous. Souvenez-vous. Et ça revient tellement souvent aussi dans la Bible. On le voit, par exemple, au psaume 105. Je donne juste un exemple, parce qu'il y en a plein aussi dans les psaumes où il est mis. Mais cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. Souvenez-vous des miracles qu'il a opérés et rappelez-vous ses prodiges. Et puis, avant de poursuivre ce message, je me dis, mais faisons juste une petite pause. Comme on a fait d'ailleurs il y a 15 jours, on ne va pas le faire maintenant chaque fois, mais ce n'est pas parce qu'on en a fait une il y a 15 jours que je ne voulais pas le faire aujourd'hui. Je me suis dit, pour nous rappeler, prendre un petit moment pour se dire, quand c'est dans ma vie où Dieu est intervenu ? Et je suis sûr que Dieu, il a déjà agi dans ta vie. Je suis sûr qu'il a déjà une fois répondu à une prière, d'une façon ou d'une autre. Mais avec le temps qui passe, on a une vie tellement effrénée que facilement on oublie. Quand Dieu est déjà intervenu ? Quand est-ce qu'il y a déjà eu la main de Dieu dans ta vie ? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait ? Alors que ça te semblait difficile, voire impossible. Et je propose qu'on prenne juste une ou deux minutes, réfléchis, quand c'est que Dieu il a agi dans ta vie, ou que tu l'as vu agir alors que tu priais. Seigneur, il y a plusieurs souvenirs qui sont revenus là, je suis sûr, pour les uns, les autres. Mais au cumul, il y a beaucoup de choses dont tu es digne de gloire. Tu as guéri, tu as délivré, tu nous as sauvés, tu nous as parlé, tu as intervenu, tu as ouvert des portes alors que ça semblait fermé. Et on veut te rendre gloire pour ça, Seigneur, dans nos vies. Et on veut s'en souvenir. On ne veut pas juste laisser les choses s'estomper. C'était peut-être il y a un mois, ou peut-être il y a 10 ans, ou peut-être il y a 30 ans. Mais on veut garder en mémoire, se souvenir de ce que tu as fait dans nos vies. À toi la gloire, Seigneur. Et peut-être qu'il t'a été difficile de trouver, ou ce n'était peut-être pas venu facilement juste maintenant dans ta mémoire, mais sache que d'innombrables fois, Dieu a agi aussi sans que tu t'en rendes compte. Il a déjà permis que tu naisses, hein, sur 1 million et quelques. C'est toi le gagnant, la gagnante. Hein. C'est déjà, félicitations, hein, je ne t'ai pas encore dit peut-être. Mais... il a permis que tu naisses, mais il t'a peut-être aussi, je me suis dit, des fois on ne se rend pas compte. Il nous a protégés X fois alors qu'on ne le savait pas. Puis des fois, quand on fait une petite touchette là, puis que ça fait un petit bugne sur notre pare-choc, on dit, ah, comment il a pu permettre ça, le Seigneur? Mais combien de frontales il t'a peut-être évité de faire? Combien de fois il t'a sauvé? On ne se rend même pas compte, quoi. Peut-être que les anges sont fatigués à force de nous protéger. On leur demandera plus tard. Mais voilà, peut-être que tu as tout de suite eu en mémoire les fois où Dieu a répondu à tes prières. Puis peut-être pas, mais sache que d'innombrables fois, en tout cas, il a agi. On vient de se souvenir, c'était un peu comme un exercice qu'on a fait là, pas long ce matin. Mais je ne crois pas que le but, c'est que ça soit un acte isolé. Mais c'est une mentalité que Dieu désire qu'on puisse avoir en nous. Et une mentalité, c'est quoi? C'est comme une habitude, elle se forge par la répétition. Lorsque, intentionnellement, on choisit de se souvenir des actions de Dieu, ça va devenir une mentalité de reconnaissance, mais surtout, notre foi, elle va être nourrie. Elle va être nourrie. Et c'est Billy Graham qui disait la chose suivante. Et il disait, la foi n'est pas un saut dans l'inconnu, en quelque sorte, ça allait aussi... en partie, mais il dit surtout que la foi, c'est une marche quotidienne avec un Dieu connu. Et il y a quelque chose de quotidien. Et la foi, ce n'est pas tout à coup quelque chose qui va te tomber dessus. Alors ça peut avoir un élan de foi tout à coup qui vient du ciel, mais c'est quand même quelque chose qui vient parce qu'on entretient. En nous, on sait que Dieu a agi et qu'il va agir encore. Et on se souvient de ce qu'il a fait. Et s'il a agi hier, il va agir demain aussi. Parce qu'il n'est pas moins puissant aujourd'hui que hier dans ta vie. Mais il n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'il y a 2000 ans dans les actes des apôtres. C'est la même chose. Et se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre marche quotidienne, ça nous forge une mentalité. Ou le surnaturel, qui peut-être n'étant pas naturel, des fois on se souvient de ce que Dieu a agi. Des fois c'est comme si on peut facilement banaliser ça. Et c'est des fois avalé comme par le raisonnement ou par le temps. Ah, mais c'est peut-être un concours de circonstances, finalement, que ça s'est passé comme ça. On a tellement prié pour que Dieu agisse. Et puis tout à coup, ben, tu dis, ouais, j'ai prié, j'ai tellement mal au dos. C'est vrai que je me suis réveillé, j'ai plus mal au dos le lendemain, mais peut-être c'est parce que j'ai bien dormi. Enfin, tout à coup, on trouve. Et puis après, voilà, peut-être c'était le Seigneur, mais peut-être 4 mois après, on ne se souvient même plus. Et peut-être que Dieu nous a puissamment guéris. On se dit, ah tiens, la grippe est partie pendant la nuit, j'ai bien dormi, le petit thé là, de sauge a fait son effet. Bien sûr, Dieu utilise plein de moyens. Mais des fois, notre raisonnement, il noie facilement l'intervention de Dieu. Et on ne se souvient même plus de tout ce qu'il a pu faire. Même quand c'est impossible que ça soit autrement qu'humain. Si on voit ces espions qui ont même oublié ces miracles puissants, si régulièrement on ne se souvient pas, on ne se rafraîchit pas, toutes les fois où Dieu a agi, on dit, mais j'ai prié pour un travail, et la porte s'ouvre, gloire à Dieu. Puis après, on se dit, mais c'est quand même un job qui était humain. Le recruteur, il était bien humain. Puis j'ai quand même fait une sacrée lettre. Hein. Ouais, puis j'ai bien assuré à l'entretien. Merci Seigneur, parce que tu as ouvert les portes. Puis en fait, c'était peut-être un miracle, sûrement même. Puis en fait, c'est vite noyé quand même dans tout ce qui est voilà, humain. On a vite fait de chasser tout ça loin de notre mémoire. On oublie peut-être l'intervention de Dieu, tout ce qu'il y a eu en coulisses, et le jour où on se rendra compte de tout ce qu'il y a eu derrière, on pourra encore remercier Dieu plus puissamment. Dieu peut agir de façon extraordinaire. On le voit dans l'Ancien Testament, à un moment donné, pour parler, il y a une main qui vient contre le mur puis qui écrit. Imaginez s'il y avait une main qui venait ici, quoi. Ça serait vraiment... Les gens étaient même apeurés. Dans le Nouveau Testament, lors du baptême de Jésus, il y a le Saint-Esprit qui vient, mais pas juste comme ça, c'est même visible. Ça vient comme un oiseau, comme une colombe, puis il y a une voix audible qui retentit, quoi. Et j'en passe, des choses surnaturelles, extraordinaires. Mais souvent, Dieu agit surnaturellement, bien sûr, mais comme dans le naturel. Puis là, ça se voit des fois moins. Par exemple, il guérit des gens, il demande aux paralytiques de se lever, il se lève et il marche. Alors c'est un miracle, c'est surnaturel. Gloire à Dieu, on a envie de voir ça toujours plus. Mais il n'y a pas eu une boule de lumière qui est venue puis qui a tourné 7 fois autour, quoi. On n'est pas dans les aventures Tintin. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu intervient surnaturellement avec un miracle, mais souvent dans le naturel de la vie. Tout à coup, il est debout, quoi, le paralytique. Et quand Dieu intervient dans nos vies, on a vite fait de plus tellement réaliser que c'était lui derrière. Que c'est lui qui nous a guéris, que c'est lui qui a ouvert une porte pour tel logement, que c'est lui qui a ouvert la porte pour tel emploi, que c'est lui qui nous a délivrés de la puissance qui nous tenait, puis ce n'est pas juste nous qui avons réussi à nous en débarrasser. Et le fait de se souvenir, ce n'est pas juste un exercice de mémoire, mais c'est reconnaître l'action puissante, surnaturelle de Dieu qui vient toucher le naturel de nos vies pour qu'on puisse lui rendre gloire. Sinon, si c'était qu'un exercice de mémoire, on aurait juste, à la place de distribuer des roses aux dames, on aurait distribué de la vitamine B à chacun ce matin, puis c'est bon. On boit notre vitamine B, puis on repart. Non, c'est le fait de se souvenir, c'est reconnaître l'action puissante de Dieu. Et au-delà de la mémoire, ça a fortifié notre être intérieur et ça forge en nous une mentalité de foi. Ça forge une mentalité de foi en réalisant tout ce que Dieu a fait, mais surtout ce que Dieu peut faire et surtout ce qu'il veut faire. Et ça va nous donner cette audace et cette détermination. Parce qu'on sait que c'est faisable et que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là qu'on arrive à mon deuxième point, mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a que deux, qui est d'être déterminé. D'être déterminé. Et suite à cela, le peuple, ce coup-ci, armé de tout ce bagage de miracles, se souvenant de l'action de Dieu, il va être animé d'un autre esprit, un esprit de conquête. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de visiter des stades de foot quand vous visitez une ville. Par exemple, j'avais visité celui de Barcelone, le plus grand d'Europe. Il y a près de 100 000 places, quoi. C'est vraiment monstrueux. Et vous voyez toutes les coupes, tous les trophées qui sont là, dans les travées, etc. À Londres, si vous allez visiter le stade de Tottenham, ben vous ne verrez aucun trophée. mais si vous allez visiter celui d'Arsenal, vous verrez plein de coupes et de... Mais souvent, les titres et même les années sont notés. Et même des fois, sur le couloir qui mène des vestiaires au terrain. Mais pourquoi il y a ça ? Ce n'est pas juste de la fierté, mais c'est pour encourager la génération actuelle. C'est pour encourager ces jeunes que ceux, il y a 10 ans, 20 ans avant, ont réussi à faire. Voilà les succès passés. On a réussi à gagner. Vous pouvez aussi le faire aujourd'hui. C'est ça, entre autres, pourquoi ils mettent ces coupes, piquettes, ces punchlines, ces slogans, ils montrent qu'ils ont gagné. C'est humain, c'est psychologique. Mais la Bible nous montre qu'il y a aussi un principe spirituel qui nous permet d'être animés d'un autre esprit, de se souvenir des exploits et des victoires que Dieu a faites. Pas seulement dans la Bible, ça nous fortifie de dire les victoires, les miracles qu'il y a dans la Bible, mais aussi ceux qu'il y a eu dans nos vies et quand Dieu est intervenu. Et si on est oublieux, notons-le dans un carnet des miracles, carnet des exaucements, et relisons-les régulièrement, que ça fortifie notre foi devant le prochain défi qui vient. En d'autres termes, ça veut dire, soyons des gagnants, ayons une mentalité de vainqueur. Et comme dit Hébreux 12, vous qui êtes entourés d'une nuée de témoins, c'est-à-dire de gagnants, de héros, ces héros de la foi dont il est question dans Hébreux, courons et persévérons, c'est-à-dire soyons des gagnants, nous arrêtons pas. Et pour revenir à Josué et à notre peuple, il se trouve à nouveau devant un obstacle avant même de conquérir. Du temps de Moïse, c'était la mer Rouge. Là, c'est le Jourdain. C'est de nouveau de l'eau qui est l'obstacle qui les empêche d'avancer. Et là même, avant de parler de conquête, moi je suis stupéfait de Josué lorsqu'il s'agit de traverser ce Jourdain. Parce que Moïse, eux, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient acculés par l'armée égyptienne derrière. Tout à coup, ils se retrouvent devant la mer. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est crier à Dieu pour qu'il y ait un miracle. Il n'y avait pas d'autre solution. Tout le monde râlait, tu nous as conduits au désert pour qu'on y meure. Dès qu'il y a un défi, ils commençaient à murmurer sur Moïse, son frère, etc. Ils en prenaient pour leur grade. Et là, ils étaient comme dans un cul-de-sac. Et Dieu parle à Moïse, et c'est au moment où il touche la mer avec son bâton que ça s'ouvre. Mais là, ce qui est frappant avec Josué, 40 ans plus tard, c'est une mentalité qui est différente, c'est que ce n'est pas un miracle du dernier recours. Il n'y a personne qui les poursuit derrière, hein. Mais c'est une foi de conquête. Et dans Josué 1, Dieu parle à Josué, puis lui dit « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant c'est à toi de traverser le fleuve. » du Jourdain et avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. » Et Dieu ensuite l'encourage avec ce fameux verset qu'on connaît, 9 de 1 Josué, « N'oublie pas, fortifie-toi et aie bon courage. Sois pas effrayé, pas épouvanté, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. » Et Dieu lui a parlé et l'encourage avec une promesse à la clé. Et qu'est-ce que va faire Josué? Il va simplement croire. Non pas qu'il n'y a pas d'autre possibilité, donc il a juste le choix de croire. Non, parce qu'il n'est pas obligé de traverser le Jourdain. C'est parce qu'il veut conquérir, il veut saisir cette promesse. Mais c'est un appel à partir à la conquête. Et ça commence par ce pas de foi, traverser le Jourdain, qui est impossible à franchir. Et Josué, lui, il est fort de tous ces miracles qu'il a déjà vus, plus ce justement qu'on a vu avant. Lui, il aurait déjà été partant 40 ans avant, hein, avec Caleb, il aurait déjà pris le pays à l'époque. Mais il est aussi certainement fortifié en Dieu. Hein. J'avais prêché là-dessus, je crois, en début d'année. C'est lui qui restait dans la tente de la rencontre encore plus longtemps que Moïse. Il passait du temps dans la présence de Dieu. C'est un intime, un ami de Dieu. C'est un proche de Dieu. Et là, il va saisir cette parole de Dieu. Il va croire à la promesse. Et moi, ce qui me scotche vraiment, c'est que pour lui, il ne fait aucun doute que passer le Jourdain n'est pas un problème. Il se dit peut-être, on a déjà traversé la mer Rouge une fois, Dieu peut le faire à nouveau. Il se souvient de ce que Dieu a fait, donc Dieu va pouvoir agir encore. D'où l'importance de se souvenir vraiment des exaucements passés, ça nourrit notre foi. Et il en est convaincu, il sait que Dieu va agir à tel point qu'il va l'annoncer d'avance. Donc ce n'est pas juste, ils n'ont plus le choix, ben, wow, j'essaie avec le bâton, on va bien y aller. Mais là, il dit, dans 3 jours, on va passer. Quelle foi, il se mouille, c'est le cas de le dire. Hein. Pourtant, le Jourdain, ce n'est pas juste un petit rue, hein, ce n'est pas le petit ruisseau de la rue du Seillon à Neuchâtel, hein. C'est pas ça. Il mesurait environ 22 mètres et quelques, si on regarde, mais rien que quand vous regardez l'Aar à Berne, le courant qu'il y a dedans, vous ne traversez pas juste comme ça. Et là, il va traverser à pied sec. Et lui, il le croit. Il dit, préparez la nourriture, en effet, dans 3 jours, vous allez traverser le fleuve du Jourdain. Vous irez prendre possession du pays que le Seigneur vous donne. Puis il poursuit en disant, Josué 1,13, « Souvenez-vous de l'ordre de Moïse, le serviteur du Seigneur qui vous a adressé. » Et là, il dit, oui, il vous a donné de vous installer dans ce pays. Et il leur dit de se souvenir de la promesse, se souvenir de l'appel de Dieu. C'est par là qu'il faut aller. Et puis il a parlé aux responsables du peuple, mais avant de traverser, il envoie 2 espions pour aller voir la ville fortifiée de Jéricho. Et c'est marrant parce qu'il n'en envoie pas 12 cette fois. Il n'en envoie que 2. Et c'est la première fois en lisant que ça m'a frappé. Pourtant, on lit X fois la Bible. Moïse, il en avait envoyé 12. 2 étaient positifs. 10 étaient vraiment revenus négatifs, pleins de doutes, de découragement. Et là, Josué, quant à faire, à la place d'en envoyer 12 avec 10 qui ont un esprit négatif humain, autant en envoyer que 2 qui ont la foi. En envoyer 2 qui ont rempli de foi. Effectivement, des fois, il vaut mieux 2 hommes de foi avec un autre esprit qu'un grand groupe où il y a le 80% qui résonne humainement. Et là, il n'en envoie que 2 ce coup-ci. Et Josué 2, 1 nous dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir quelle est cette vallée. Sittim, ça veut dire vallée des acacias. Vous voyez, vous prenez le bus 109, vous arrivez aux Acacias. Sittim, ça veut dire les Acacias. C'est une vallée aride, un désert à l'ouest de Jérusalem. Mais c'est aussi la vallée où Israël était resté et le peuple avait commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab du temps de Moïse. Et ils se retrouvent là à Sittim. Sittim, le lieu de la deuxième chance. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce lieu de désert, dans cette vallée de défi, cette vallée de la tentation? Quel choix on va prendre? Est-ce que le peuple va se souvenir que Dieu est puissant ou repartir pour un tour de 40 ans? Est-ce que le peuple va succomber à la tentation du plaisir immédiat avec ses filles de Moab comme 40 ans avant ou se lever et combattre? Et je crois que ce n'est pas par hasard que tout se joue de nouveau à Sittim, lieu de la deuxième chance où Josué envoie ses 2 espions. Mais ce qui est frappant avec leur tour des 12 du temps de Moïse, ça m'a vraiment frappé avec leur tour des 2 espions qui sont allés voir Jéricho, cette ville super protégée, avec une muraille infranchissable, imprenable. C'est ce qu'ils disent en revenant, ces 2. Ils disent à Josué, alors qu'ils ont vu vraiment ils ont dû s'enfuir de nuit par la fenêtre, c'était tout un cirque pour juste sortir vivant de cette ville, ils disent à Josué, Dieu nous donne cette ville. Dieu nous donne cette ville. En étant inspirés, renouvelés, armés des souvenirs de tous les miracles que Dieu avait faits, ils ont pu voir Jéricho non pas juste comme une ville fortifiée, imprenable, mais ils ont eu la foi que c'était faisable. Ils ont eu la foi que c'était faisable. Et ils disent même, Josué 2, 24, c'est certain, le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Cette foi, elle venait de ce vécu avec Dieu, de tout ce qu'ils avaient pu voir Dieu agir. Et ils ne vont pas laisser la peur les empêcher de s'emparer du pays. Ils ne vont pas commettre la même erreur que les espions 40 ans avant. Mais les habitants de Jéricho, eux, ils n'ont pas non plus oublié. Et Rahab leur dit qu'ils avaient accueilli quand ils ont été espionnés. Il leur dit que les habitants se sont découragés parce qu'ils se souviennent de tout ce que Dieu avait fait pour le peuple. Eux, ils se sont souvenus. Et ça les a découragés. Et là, pour traverser le Jourdain, Dieu donne la stratégie. Alors même si c'est bien de se souvenir des miracles passés, l'idée, ce n'est pas juste de refaire comme avant, parce que ça a marché une fois. Je crois que vous avez raconté une fois, un de mes amis, Ismaël, en Afrique, ils avaient fait venir les malades, et puis ils avaient fait venir tous les aveugles qui étaient en colonne, et ils prient pour les aveugles. Et puis il y a non seulement le premier qui a été guéri, mais tous ceux derrière aussi. Gloire à Dieu. Alors le lendemain, ils ont fait revenir les aveugles. Il a prié, et ça ne s'est juste pas passé comme ça. Parce qu'on ne peut pas juste, parce que ça marche une fois, juste répéter la même chose. Ça doit nourrir notre foi, mais on doit rester connecté à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il nous demande. Et l'idée, ce n'est pas juste de refaire une chose, parce que ça a marché une fois, on fait rebelote. Si Josué avait copié Moïse, puis qu'il avait pris son bâton pour traverser le Jourdain, ben il ne serait plus en train encore d'essayer de le faire, mais voilà, ils n'auraient pas traversé, ça n'aurait pas marché. Parce que Dieu a parlé d'une façon spécifique et que Josué a cru. On voit le récit dans Josué 3. Cette fois, il leur dit de passer l'Arche de l'Alliance en premier. Et l'Arche de l'Alliance, c'était comme une boîte où dedans, il y avait les tables de la loi gravées de Moïse et puis le bâton d'Aaron qui avait fleuri miraculeusement. Et moi, je trouve que c'est super parlant ce qu'il y a dedans. Parce que l'Arche de l'Alliance, ça représente la présence de Dieu et dedans, il y a les tables, c'est la parole de Dieu. Et il y a aussi ce bâton fleuri qui est le souvenir du miracle de Dieu. Si tu avances avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le souvenir de ce qu'il a fait, les portes s'ouvrent et le Jourdain s'est ouvert. Il s'est ouvert. La parole de Dieu et le souvenir, ça nous fait entrer dans l'impossible. Ça nous fait entrer dans l'impossible. Et ils ont dû se mouiller. Et Dieu a agi. C'est les prêtres qui portaient l'arche, ils ont dû poser les pieds. C'est quand ils ont poser les pieds, que finalement, l'eau s'est arrêtée plus haut, mais ils ont dû marcher un petit coup dans l'eau, parce que là, ça ne s'est pas fait la même chose avec des murs d'eau, puis ils ont pu passer au sec. Dieu, il a arrêté l'eau en amont, il a de nouveau agi autrement. Et lorsqu'on est devant un défi, une impossibilité, un obstacle, une porte fermée, c'est la présence de Dieu qui va ouvrir en premier le chemin. La présence de Dieu, elle ouvre le chemin dans l'impossibilité. La présence de Dieu, elle ouvre le chemin du surnaturel. La présence de Dieu, elle libère la foi. Mais notez bien que la présence de Dieu, elle n'a pas asséché le Jourdain, puis elle n'a pas fait disparaître Jéricho. Elle leur a donné la foi pour traverser et pour conquérir. Mais après, ils ont dû le faire. Ils ont quand même dû, eux, y aller, mais forts de cette présence de Dieu, forts de la parole de Dieu qu'il y a dans leur cœur et de ce souvenir du miraculeux, l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire devant, ils ont pu passer. Et la présence de Dieu, elle est tellement, on a lu avant le psaume 105, chercher sans cesse la présence de Dieu, mais à un moment donné, quand on est touché par cette présence de Dieu, qu'on se souvient de l'action de Dieu, on doit quand même y aller. Ils ont dû quand même traverser, poser les pieds dans l'eau. Et Dieu agit toujours d'une façon ou d'une autre. L'autre qui a vécu pareil, c'est Pierre. Lorsqu'il sort du bateau, il marche dans l'eau. Il était proche de la présence de Jésus. Il a osé, il a posé les pieds et c'était miraculeux. Il a marché sur l'eau avant de sombrer un petit peu, mais il a marché sur l'eau quand même. Personne d'entre nous, de mémoire, ou on n'a pas encore témoigné, parce que l'a fait. Dieu a répondu autrement qu'avec le Jourdain. Il a pu marcher dessus. Mais petite parenthèse, dans les situations similaires, pour se déplacer dans la mer, on voit que Dieu il répond toujours d'une façon ou d'une autre, mais souvent pas la même chose. La mer Rouge, c'était des murs d'eau. Le Jourdain, il a arrêté le flux d'eau en avant. Pierre, lui, comme Jésus, il a pu marcher dessus. Ça ne s'est pas séparé ou il n'a pas asséché l'eau. Et notez aussi que plein de fois, Jésus, il prend le bateau. Hein. 99% du temps, il est en bateau, Jésus. Il y a une fois où on voit qu'il marche, en tout cas de ce qu'on peut lire. Et ils ont dû ramer, ils ont dû hisser les voiles. Dieu agit miraculeusement, mais combien de fois il agit aussi au travers de moyens complètement naturels? Parce que Dieu est le Dieu du surnaturel et du naturel. Alors le but n'est ni d'être frileux, et puis tout vouloir comprendre, puis on reste que dans ce qu'on voit, que dans le naturel. Puis le but, ce n'est pas de courir juste après le surnaturel et le spectaculaire à tous les coups pour vivre de l'expérience. Le but, c'est quoi? C'est d'entrer dans ce que Dieu a prévu, d'y aller, et si Dieu nous y amène naturellement, tant mieux. Et s'il nous y amène surnaturellement, ben c'est génial, gloire à Dieu. Mais ce qui compte, c'est de s'emparer de la promesse du pays promis, et c'est d'y aller. Et si Dieu fait un miracle, gloire à Dieu. Mais peut-être que c'est un miracle qu'on ne se rendra pas compte, parce qu'il a juste incliné le cœur de quelqu'un qui nous ouvre une porte. Ce qui compte, c'est de s'emparer de la promesse du pays promis. Après, si je prêche ça aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on est plutôt plus que peu dans le naturel et plutôt peu que plus dans le surnaturel. Et on désire plus de surnaturel aussi. Je n'ai pas entendu un amen là. Mais... bon, on ne dit pas amen à toutes les phrases ici, mais ni à tous les points, virgules et les virgules. Mais des fois, voilà, je voulais juste qu'on puisse dire amen. Donc on désire plus de surnaturel parce qu'on désire vivre ce que Moïse, Josué, d'autres comme Pierre ont vécu. Et avoir une foi qui sait que Dieu répond, que ce soit par le naturel ou le surnaturel, ce qu'on a envie, c'est la foi que Dieu répond, de toute façon. Et la foi, des fois, c'est de prendre des risques, c'est de pas vouloir juste assurer nos arrières en disant « ouais, puis si Dieu ne répond pas, je pourrais dire que non, on prend le risque, on prie pour que notre voisin ou telle personne soit guérie. Si ça ne se passe pas, ça regarde le Seigneur, il trouvera bien les réponses à donner à cette personne qui sera déjà juste touchée, qu'on aille prier pour elle, puis qu'on soit intéressé à elle. Mais on va prendre le risque aussi d'aller de l'avant et de se lancer. Et c'est là que l'Esprit de Dieu se déverse. D'ailleurs, c'est saint Augustin qui a dit la chose suivante, la foi consiste à croire en ce que l'on ne voit pas, ça on le sait, la Bible dit, mais la récompense de cette foi est de voir ce en quoi on croit. Et la récompense, c'est de voir. La récompense de cette foi, c'est de voir justement ce qu'on croit. Et vous vous souvenez que j'ai parlé de la vallée de Sittim, alors que je vais terminer là avant, cette vallée de désert, aussi cette vallée de tentation, qui n'était pas terrible 40 ans avant, mais 40 ans après, ils ont finalement pris Jéricho, et voilà, ils ont eu cette ville, c'est pas de ça que j'ai parlé aujourd'hui, cette vallée du découragement, du doute, cette vallée qu'il y a devant le Jourdain avant de conquérir. Et dans nos vies, c'est des fois des temps de transition, c'est des moments des fois où on est au point A, puis on désire s'emparer du pays de la promesse. Peut-être que tu as reçu des prophéties, c'est le pays de la promesse, mais regarde, tu es au point A, tu as envie d'aller au point P de la promesse. Des fois, il y a souvent même des conditions à la prophétie. Mais d'où l'importance, comme Josué, de suivre la donnée. Qu'est-ce que tu as dit vraiment pour qu'on arrive à tel endroit? Pour eux, la donnée ou la condition, c'est de faire passer l'arche avant tout. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ce pas de foi? Qu'est-ce qui se passe dans notre désert? Qu'est-ce qui se passe dans notre vallée de Sittim? Et j'ai trouvé fou parce qu'il y a un passage prophétique dans la Bible qui nous parle justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où Dieu répand son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est un texte qu'on connaît et que Dieu est en train de faire. Il le fait, et on le veut toujours plus. Mais ce texte continue dans Joël 3, 18, où il est dit « Ce jour-là, le vin nouveau inondera les collines. Le lait débordera sur les montagnes. L'eau coulera dans toutes les rivières du pays de Juda. Et une source sortira du temple du Seigneur. Elle arrosera la vallée de Sittim. » Elle va arroser cette vallée peut-être du doute ou cette vallée de la tentation. La présence de Dieu désire arroser nos déserts pour qu'on ait l'audace, qu'on ait le souvenir, pour qu'on puisse s'emparer des promesses que Dieu a devant nous. Et pas qu'on meure dans ce désert comme ceux qui ne l'ont pas fait 40 ans avant. Et c'est un passage du prophète Joël qu'on veut saisir aujourd'hui pour nos vies. Alors qu'on est tous ensemble ici, que Dieu arrose nos vallées de Sittim, nos déserts, nos transitions, nos vallées de tentation qui viennent arroser de ce fleuve qui sort du temple de Dieu. Arrosé par le fleuve de Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce que touche le fleuve de Dieu prend vie et qui redonne vie peut-être à ce qui a séché dans ce désert, à ce qui t'a été dit et qui a séché, t'as peut-être même oublié, pour qu'on puisse avancer avec foi. Et ce qui va nous amener du point A au point Z, ce qui nous arme de foi, c'est de nous souvenir des victoires passées et puis de regarder à la promesse. Puis là, peut-être le groupe ou Johanna, vous pouvez déjà venir, parce que j'ai quasi fini. Mais de pouvoir nous souvenir de nos victoires passées et regarder à la promesse, c'est un peu comme un pas en arrière, mais c'est ça un élan. Souvent, on prend de l'élan, on regarde en arrière, pour pouvoir mieux rebondir. C'est ça, un élan de foi. Et je me souviens du passé pour mieux me lancer. Et à un moment donné, il faut quand même vouloir se lancer. Regarder derrière les victoires, ça me fortifie. Mais pour que ça forge en moi cette mentalité d'être déterminé et d'aller de l'avant. Et je termine avec ce passage d'Ésaïe 46 qui dit « Souvenez-vous, souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Et je dis « Mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Mon projet se réalisera. » Et on doit se souvenir des premiers événements, de ce que Dieu a déjà fait. Mais le projet de Dieu va se réaliser. Et j'aimerais pour terminer qu'on puisse se lever, tous ensemble. Et je vais demander à Dieu vraiment d'agir en nous. Dieu désire qu'on puisse se souvenir. D'ailleurs, il le dit, c'est pas de ça qu'on va vivre maintenant, mais il le dit quand il prend, il inaugure le repas de la Seine, il dit « Faites ceci en mémoire, souvenez-vous de la croix, souvenez-vous de la victoire, souvenez-vous de ce miracle puissant. » Il y a quelque chose dans le souvenir, c'est prendre son élan pour mieux rebondir et sauter. Ce souvenir de la victoire ultime qui permet que tout est possible dans nos vies. Et je crois que c'est un peu peut-être aussi la deuxième chance, peut-être pour plusieurs aujourd'hui, d'y croire à nouveau. Dieu, peut-être tu te retrouves, comme le peuple s'est retrouvé dans la même vallée du désert de Sittim, et lui a dit « Mais souvenez-vous de tout ce que j'ai fait, mais surtout croyez à nouveau que c'est possible. » Et des fois, on a cru et on n'a peut-être pas vu comme on imaginait. Mais Dieu te dit « Reste pas dans la déception, mais investis-toi de nouveau dans la foi pour y croire tout à nouveau. » Et alors que tu te souviens déjà de tout ce que j'ai fait, je vais encore agir encore et encore dans ta vie. Malgré Sittim, malgré peut-être les échecs dans le désert, malgré les tentations, peut-être que tu as succombé dans cette vallée de Sittim comme le peuple, avec les filles de Moab, souviens-toi que j'ai déjà agi dans le passé dans ta vie. Je suis sûr que tu t'en souviens. Et si tu t'en souviens pas, j'ai déjà agi maintes fois sans que tu le vois. Et Dieu veut ouvrir ce Jourdain dans ta vie et que l'impossible devienne possible, qu'il y ait plus de sa présence. Et Seigneur, je te prie que tu nous touches ce matin. Et Seigneur, on ne veut pas juste être des gens qui font que de regarder derrière et nos bons souvenirs. Seigneur, on veut jeter un petit coup d'œil dans le rétro, mais regarder de l'avant, là où tu veux qu'on aille. Et Seigneur, on veut être armé d'une mentalité et ne pas être oublieux de toutes les fois où tu as répondu à nos prières. On ne veut pas être oublieux de tous les miracles qu'on lit dans la Bible, mais on sait qu'aussi dans nos vies, sans trop gratter, on sait que tu as déjà répondu, que tu as déjà agi. C'est pour ça déjà que la plupart, on est là aujourd'hui, ce matin. Et Seigneur, je te prie vraiment, tu puisses nous donner de placer en premier dans nos vies ta présence, qu'on puisse chercher continuellement ta présence. Mais dans ta présence, aussi comme dans cette arche qui va ouvrir le Jourdain, qu'on puisse avoir ta parole et puis qu'on puisse avoir le souvenir de tes actions comme ce bâton d'Aaron qui a fleuri et que ça puisse ouvrir vraiment ce fleuve pour la conquête des promesses que tu nous as données à chacun. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous encourages, que tu nous boostes, Seigneur, qu'on puisse être ces hommes et ces femmes déterminés pour aller de l'avant et pas qu'on regarde juste avec ce télescope les promesses futures ou qu'on entende ce que tu as fait à gauche, à droite ou un orateur extraordinaire. Seigneur, on désire nous y entrer et être déterminés. C'est moi qui veux me lever en sachant que tu agis dans ma vie et je veux saisir les promesses que tu as pour ma vie. Et Seigneur, je te prie que tu nous touches ce matin parce qu'on a envie d'être des hommes, des femmes réveillés, passionnés, qui vont de l'avant dans ce que tu as prévu pour nos vies. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes augmenter la foi, Seigneur, que tu nous donnes cette mentalité, Seigneur, d'être reconnaissant pour le passé et de croire à nouveau et de croire toujours plus pour le futur, pour les choses surnaturelles, pour des délivrances, pour des guérisons, pour des miracles, pour des portes qui s'ouvrent, comme ça a été dit dans la louange. Et on veut saisir ces choses par la foi et on veut y entrer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je crois vraiment que pour plusieurs, ça parle le côté de la deuxième chance. Et tu as peut-être laissé passer ta chance, mais c'est encore temps. C'est encore temps d'y croire tout à nouveau. Et ce matin, saisis vraiment cette pensée en disant, ouais, j'ai eu un appel ou j'ai eu des promesses, mais je suis resté dans le désert. Soit j'ai succombé, comme le peuple avec les filles de Moab, soit j'ai simplement pas vraiment cru, puis j'ai tourné en rond. J'ai tournicoté en rond et j'ai perdu mon temps. Mais aujourd'hui, il y a l'occasion de te souvenir des fois où Dieu a agi, de te souvenir aussi de la promesse. C'est aussi ça qu'il disait au peuple. Souviens-toi de l'appel, souviens-toi de la promesse. Forge cette mentalité de gagnant. Et avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le souvenir, recommence. Investis de nouveau dans cette foi, d'y croire à nouveau, encore une fois. Amen. Amen.
On va reprendre ce chant.